Le coup d'état de Chéri Bibi, chapitre 22. Monsieur Florent vit dans les transes. On suppose bien que les honnêtes bourgeois, en ces temps de trouble, se terraient comme des lapins. Mais le plus lapin de tous était bien Monsieur Florent. L'ex-marchand de papier à lettres était revenu à Paris après l'échec du coup d'état, en proie à une rare consternation. Nous devons du reste à la vérité de proclamer que cet accablement de M. Florent lui venait moins du mauvais sort de la patrie, livré, selon sa forte expression, au bourreau de la démagogie, qu'à la méchante idée qu'il se faisait de sa sécurité personnelle. Il s'accusait avec amertume d'avoir, sans que personne l'y forçât, publiquement annoncé sur une place de Versailles que la République était dans le sion. Toutes ces manifestations anti-révolutionnaires, dans un temps où la Révolution, en dépit des pronostics de M. Florent, triomphait, apparaissaient à celui-ci comme autant de fautes incalculables. Il habitait un petit appartement au cinquième étage d'un vieil immeuble du Marais. Son dessein était de s'y enfermer, bien décidé de n'en sortir que le moins souvent possible et avec grande prudence. Il était bien avec son concierge, le père Talon, un nom épatant pour un ressemeleur de bottes, et un brave homme qui avait toutes les idées politiques de M. Florent et professait un grand mépris pour les amateurs de réunions publiques. Ainsi M. Florent espérait-il, sans trop de peine, traverser les mauvais jours, qui, dans sa pensée, devaient être rapides, car il continuait de croire que toute cette tragicomédie s'effondrerait bientôt. Cependant, il commença de trouver que les choses tournaient au pis. Quand au coin de la rue, il fut jeté en plein dans une cohue qui agitait des sabres et des piques. Cette foule hurlante sortait d'un musée militaire qu'elle avait dévalisé de ses armes archaïques, et comme il s'y mêlait de vociférantes figures de commères, telles qu'on en voit sur les estampes françaises datant de la prise de la Bastille, M. Florent put se croire revenu aux temps héroïques. Il pensa en défaillir et s'écrasa sous un porche pour laisser passer cette tourbe. Tout à coup, la rue s'emplit d'un immense populaire qui criait « À mort le Subdamoun ! Vive la Révolution !» et qui portait quelques hommes du jour en triomphe. M. Florent se dit qu'on le regardait peut-être et il cria de toutes ses forces « Les aristocrates à la lanterne !» Sur quoi, un monsieur très calme, M. Save, qu'il connaissait très bien pour lui avoir loué tous les volumes de sa bibliothèque circulante, autant qu'il était dans le commerce, et dont chacun s'accordait à louer les manières réservées et les opinions de tout repos, lui dit « Monsieur Florent, il n'y a plus de lanterne !» Puis M. Save, sans se retourner, sauta dans un autobus qui passait. M. Florent avait rougi. Ce monsieur connaissait ses opinions et certainement le prenait pour un lâche. M. Florent, dégoûté de lui-même, se sauva. Il arriva chez lui et fut frappé de l'air sournois avec lequel l'accueillit le citoyen Talon. Au fond de son échoppe mal éclairée, coiffé d'un ignoble bonnet et tapant sur sa semelle avec rage, le concierge de M. Florent lui produisit l'effet du savetier Simon. Il crut adroit d'expliquer qu'il était allé faire un petit tour à la campagne, qu'il venait de rentrer et qu'il n'était au courant de rien. « C'est bon, » grogna Talon, « mais demain, il faudra passer à l'arsenal pour vous faire délivrer une carte de civisme, sans quoi je serai obligé de vous dénoncer. »« Vous, monsieur Talon, vous feriez cela ?»« Ah, je me gênerai. On est venu du club, on a passé dans toutes les maisons. Par les temps qui courent, et quand les bourgeois rêvent de renverser la République, c'est bien le moins que le peuple se défende. Monsieur Florent, entre nous, permettez-moi de vous dire que pour votre sécurité personnelle, il serait grand temps de changer d'opinion. Eh, répliqua Monsieur Florent de plus en plus inquiet, je ne demande qu'à vivre en paix, moi. Vous avez bien raison, et je vois que, de votre côté, vous n'avez pas hésité non plus. De quoi? De quoi? Interrompit cet homme mal élevé. Taisez-vous, vous ne savez pas ce que vous dites, monsieur Florent. Vous n'avez jamais connu mes vraies opinions, parce que je les ai toujours dissimulées. Mais aujourd'hui, je n'ai aucun effort à faire pour les montrer. Puisqu'on est les maîtres, on n'a plus de chichi à faire avec personne. Ah, tenez, moi, je l'aime, le régime des suspects du temps de la Commune, comme il disait en France en 1871.
Ne me parlez pas de Commune, monsieur Talon. La Révolution a été un gouvernement. La Terreur a été un gouvernement. Mais la Commune, ça n'a été rien du tout. Du brigandage, oui, du pillage et de l'incendie.
Monsieur Talon se souleva sur son escabeau et s'avança, terrible, sous le nez de monsieur Florent qui recula.
La Commune n'a pas été un gouvernement.
Et il brandissait son tire-poing comme un sabre. Monsieur Florent se recula et sortit, en tremblant, un billet de 20 francs de sa bourse. Il le déposa sur la table de monsieur Talon.
Vous ne pourriez pas aller retirer vous-même ma carte de civisme, monsieur Talon? Vous me connaissez depuis longtemps. Vous pouvez répondre de moi.
Non. Vous avez une réputation de réac dans le quartier. Je n'ai pas envie de me compromettre. Répondit monsieur Talon en mettant le billet dans sa poche.
C'est bien. J'irai trouver mon ami Hilaire, qui est secrétaire du club, et qui connaît, lui, mes véritables opinions.
Sans rancune, monsieur Talon. Et gardez mes 20 francs tout de même.
Et il grimpa ses 5 étages, les jambes molles et l'esprit en désordre. Réputation de réac? C'est lui qui l'avait voulu. Ah! Monsieur Barquimel avait été plus malin que lui. Il ne s'était jamais moqué de la nouvelle révolution, lui. Il ne l'avait jamais tourné en ridicule. Il avait toujours vécu dans une respectueuse terreur de l'extrême gauche. Si bien que la révolution éclatant, monsieur Barquimel, qui l'avait toujours pris au sérieux, s'était trouvé tout prêt à s'enrôler parmi ces hommes redoutables.
Jamais monsieur Florent n'oserait aller chercher sa carte de civisme. Où trouverait-il les témoins nécessaires? Il était sûr de la haine de monsieur Barquimel, et il ne pouvait plus répondre de l'amitié de monsieur Hilaire, lequel devait être fort occupé à se défendre lui-même contre les soupçons du club et les dénonciations sournoises de l'abominable Barquimel. Ah, ce Barquimel, que n'aurait-il pas fait pour être nommé officier d'académie?
Monsieur Florent finit, le lendemain matin, par s'entendre avec monsieur Talon, qui était venu lui apporter les journaux. Monsieur Talon reçut 1 000 francs, moyennant quoi il s'engageait à ne pas avoir vu passer monsieur Florent. Ainsi, monsieur Florent serait absent, nul ne l'aurait vu. Pendant ce temps, monsieur Florent vivrait sans bruit au fond de son appartement, de conserves et d'eau fraîche. Cela durerait ce que cela durerait.
Notre homme vécut ainsi dans une sécurité relative pendant 12 jours. Nous disons « relative » parce que s'il avait la sécurité physique, il vivait dans des transes morales effrayantes. Le père Talon lui glissait de temps à autre, sous sa porte, un journal, et ce qu'il y lisait le rejetait à l'effroi le plus farouche. Les nouvelles de l'hôtel de ville, les décrets du comité de salut public, les arrêts du comité central de surveillance, les proclamations de Coudry, dans sa gazette des clubs, l'anéantissaient.
Ce Coudry! Mais c'est Hébert! Mais c'est le père du chêne! Murmurait le pauvre Florent.
Qu'est-ce que je disais, qu'on ne recommence pas la révolution? Mais nous y sommes en plein!
Et son érudition quant à l'histoire de la grande révolution française, érudition dont il était si fier, lui laissait entrevoir 1 000 tableaux plus angoissants les uns que les autres. Un matin, il lut un article qui le fit bondir de son lit. Cet article était intitulé « Parisiens, levez-vous ». Et cela commençait ainsi.
« Du sang, citoyens, du sang. Périssent quelques hommes. Il faut couper les bras pour sauver le corps. »
Cela était signé « Save ».
Savent ? Râle Monsieur Florent. Savent ? Mais c'est ce monsieur très bien qui venait à ma bibliothèque et qui l'autre jour m'a rappelé qu'il n'y avait plus de lanterne. Ainsi, lui aussi, un article pareil, un client si tranquille, si comme il faut. Mais c'est la fin du monde.
Après tout, reprit-il quelques instants plus tard, quand il eut essuyé la sueur de son angoisse.
Après tout, il a bien raison. Il ne s'embarrasse pas de ses opinions passées. Il n'y a que les présentes qui comptent, puisque ce sont les seules qui sont utiles. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. Il y en a qui commencent par la révolution et qui finissent par la réaction. On peut aussi bien, que diable, commencer par la réaction et finir par la révolution. Pourquoi serais-je plus bête que ceux savent ?
Et il imagina ceci, d'écrire, lui aussi, des articles signés d'un pseudonyme, articles qu'il enverrait à la Gazette des clubs, et dans lesquels il ferait preuve d'un amour farouche de la liberté, et qu'il animerait du plus pur esprit de la grande révolution française qu'il connaissait si bien. Il avait justement gardé chez lui, de son ancienne bibliothèque circulante, une demi-douzaine de volumes allant des discours de Mirabeau au réquisitoire de Fouquier-Tinville, et il s'empressa, illico, de puiser sans vergogne à cette source sacrée. Comme disait l'ancêtre, de l'audace et encore de l'audace. Il en eut au fond de son trou obscur plus qu'on ne saurait dire, et il voua à l'échafaud tous ceux qui, sur commandement, ne sauraient énumérer les droits de l'homme. Ce catéchisme de tout bon citoyen de tous les pays. Son plan était, après quelques envois de cette sorte, de se présenter à la rédaction du journal de Coudry et de dévoiler sa personnalité désormais glorieuse et à l'abri des coups de la Révolution. Le foudroyant succès de la nouvelle politique de M. Barquimel, qui lui fut révélé par les feuilles publiques, lui donna un prodigieux coup de fouet, et il espéra surpasser son ancien compagnon par l'intransigeance de son civisme. En vérité, que pouvait-il avoir fait, ce Barquimel, à l'intelligence si médiocre, pour avoir été choisi, élu, présenté par la section de l'Arsenal comme membre du tribunal révolutionnaire? Monsieur Barquimel était juge maintenant, et Monsieur Hilaire, l'épicier Hilaire, était commissaire de sa section. Les articles, soigneusement cachetés, étaient portés à la boîte de la place de l'Hôtel de Ville par le père Talon lui-même, qui venait de toucher son deuxième billet de 1 000 francs et qui trouvait plus que jamais que le régime de la terreur avait du bon. Avec quelle anxiété Monsieur Florent ouvrait tous les matins la Gazette des clubs pour y lire sa prose. Mais hélas, c'était en vain qu'il y cherchait son chef-d'œuvre et sa signature. Le vieux cordelier. 3 articles étaient déjà portés et il venait de remettre le 4e, 15 minutes auparavant, au père Talon, quand un grand tumulte et un grand bruit de crosse emplit la rue des Francs-Bourgeois. Il était 7 heures du soir, Monsieur Florent, qui habitait sous les toits, se risqua à mettre le nez à sa lucarne. Alors, il aperçut au-dessous de lui le père Talon, qu'accompagnaient des civils ceinturés de rouge et suivis d'une section en armes. Il ne douta plus que le père Talon, à qui il avait eu l'imprudence en lui donnant le 2e billet de 1 000 francs, de déclarer qu'il n'avait plus le sou, il ne douta plus que l'horrible savetier fût allé le dénoncer pour toucher une prime. Déjà on entendait des pas pesants dans l'escalier et les cris des officiers. Monsieur Florent n'hésita point à se glisser comme un chat dans les gouttières, et, favorisé par les ombres d'un obscur et lourd crépuscule, il put parvenir de toit en toit, après avoir failli se rompre 20 fois les os, jusqu'à la fenêtre entr'ouverte d'une mansarde dans laquelle il se jeta à genoux à tout hasard. Mais la pièce était vide. Monsieur Florent se releva, ouvrit la porte et descendit l'escalier de son air le plus tranquille. Le sort le gâta encore jusqu'au rez-de-chaussée, où il se trouva dans une cour étroite, mal éclairée par les feux d'un petit cabaret bien connu de lui et de M. Barquimel, au temps où il s'offrait l'extra d'une tripe à la mode de Caen, arrosée d'un cidre mousseux. Pour fuir, il fallait traverser cette cour, et la fenêtre du petit cabaret était justement ouverte. La salle était pleine de dîneurs qui trinquaient bruyamment au triomphe de la ville sur l'assemblée. M. Florent venait d'apercevoir M. Barquimel. Oui, M. Barquimel, triomphant, le ventre ceinturé des insignes de sa fonction. M. Barquimel, trônant, mangeant, buvant. M. Barquimel, traitant les principaux de sa section en grand seigneur. M. Barquimel que l'on écoutait quand il parlait. Chapitre 23. Suite de l'étrange aventure de M. Florent. À ce moment, il y eut dans la salle du cabaret un grand remue-ménage. On acclamait un nouvel arrivant. M. Florent reconnut M. Hilaire, qui avait lui aussi sur le ventre une belle soie rouge à gland d'or, l'écharpe du commissaire de la section. « Vous ne savez pas ce qui m'arrive ?» s'écria M. Hilaire en suspendant d'un geste son sabre à une patère ainsi que son beau chapeau à plumes. « Parlez, commissaire !»« D'abord à votre santé, et sachez, ami Barquimel, qu'il s'agit de votre ami Florent. » « Florent n'a jamais été mon ami !» s'écria M. Barquimel avec une indignation qui lui hérissa le poil. « Je vous défends, mon cher commissaire, de donner ce doux nom d'ami à un mauvais citoyen qui s'est enfui comme le dernier des lâches après avoir essayé de renverser la République avec le subdamoun et qui a toujours été un infâme réactionnaire. « Sachez que ce monsieur Florent, continua M. Hilaire, vient de faire des siennes. Vous savez que nous avions réunion de tous les commissaires de section à l'hôtel de ville, une réunion très importante. Sous les auspices de Coudry, nous voulons former l'assemblée des commissaires de la municipalité des sections réunies, avec plein pouvoir de sauver la chose publique, si le comité de l'hôtel de ville nous l'ordonne. Vous comprenez si ça peut mener loin. Mais il faut aller jusque-là si nous ne voulons pas être bouffés par les communistes qui nous traitent de sales bourgeois. Coudry est venu à la fin de la réunion, qui a été assez mouvementée, et quand tout a été fini, il a demandé tout haut qui était le commissaire de la section de l'Arsenal. Je me suis avancée. « Citoyen commissaire, me dit-il, je vais avoir besoin de vous pour une visite domiciliaire assez importante. » Nous venons de découvrir le gîte d'un dangereux réactionnaire qui, sous le voile de l'anonymat, nous fait parvenir chaque jour à la Gazette des clubs de hideux réquisitoires contre notre révolution. Ces infâmes libelles sont signées « Le vieux Cordelier » et nous parviennent par la poste. Je les ai fait, du reste, composer pour en avoir plusieurs exemplaires qui pourront être lus, soit dans les clubs, soit devant le tribunal révolutionnaire, comme preuve de l'audace avec laquelle nos ennemis rêvent de nous faire retourner aux ténèbres du passé. Monsieur Verdier, mon secrétaire de rédaction, a fini par découvrir que le fameux pli du vieux Cordelier était mis à la boîte de l'hôtel de ville. Nous venons de faire surveiller cette boîte, et nous avons ainsi mis la main sur le porteur du pli, un nommé Talon, concierge, rue des Frambourgeois, qui nous a révélé immédiatement de qui il le tenait. Il s'agit d'un de ses locataires, nommé Florent. Dans ces conditions, nous avons retenu le nommé Talon, et je compte sur vous, monsieur le commissaire, m'a dit Coudry, pour arrêter le nommé Florent. Avons-nous besoin de dire qu'à l'audition des propos rapportés par M. Hilaire, M. Florent se mourait d'horreur dans le petit réduit où il était réfugié. Ses cheveux se dressaient sur sa tête. De quelle sombre erreur allait-il donc être victime? « Eh bien, il a trouvé le moyen de se sauver, » déclara M. Hilaire en remplissant son assiette. « Et puisque nous sommes entre nous, je vous dirai que j'aime autant que ce soit un autre qui l'arrête que moi. Car enfin, c'était un bon client. Et moi, il m'amusait avec son petit esprit d'autrefois. Ah, le brave, l'honnête, le bon monsieur Hilaire, soupirait monsieur Florent. Et il pensa tout de suite qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Moi, on ne sait pas ce que je suis capable de faire quand il s'agit du bien public, proclama monsieur Barquimel. Et aussitôt, comme s'il était à bout de son héroïsme, il demanda la permission de se retirer et prit congé de tous. Du reste, il se faisait tard, et les clubs, les sections, réclamaient ces messieurs. Par un hasard providentiel, ce fut monsieur Hilaire qui, arrivé, il est vrai, en retard, fut le dernier à partir. Déjà, il décrochait son sabre de la patère avec un grand bruit d'acier guerrier, quand une ombre sauta prestement par la fenêtre de la cour, dans la salle, et s'en fut pousser le verrou de la porte. Monsieur Hilaire avait reconnu monsieur Florent, en dépit du fâcheux état dans lequel il se présentait. Aussi, au lieu de faire quelque esclandre, il s'en alla rapidement de son côté pousser la fenêtre. « Vous ! » fit-il. « Prenez garde ! Les sectionnaires continuent de vous chercher dans le quartier. Et si l'on sait jamais que je vous ai vu sans vous arrêter, je suis un homme perdu. » Florent ne lui répondit même point. Il s'était laissé tomber sur une chaise et faisait entendre des plaintes inintelligibles. « Pauvre homme ! » soupira monsieur Hilaire. Nous savons que monsieur Hilaire, élevé à l'école de Chéribibi, était plein de sentiments nobles et généreux. Pauvre homme, dans quel état le voilà ! Buvez et mangez. Après, nous verrons bien. Monsieur Florent ne se le fit pas répéter. Quand il fut un peu rassasié, il dit : Vous êtes un brave cœur, je sais que vous ne me livrerez point. Vous n'êtes pas un fourbe comme ce Barquimel dont je vous engage à vous méfier. Nous n'avons point le temps de dire du mal de monsieur Barquimel, conseilla monsieur Hilaire. Occupons-nous de vous. Et moi, avant que vous m'aidiez à sortir de là, je veux vous sauver en vous disant Barquimel est chargé de vous espionner par le club de l'Arsenal. Il peut vous perdre. Prenez garde. Il m'avait proposé à moi-même de vous surveiller. Mais je lui ai répondu que je ne mangeais pas de ce pain-là. D'où est venue toute notre brouille ?
Que dites-vous là ?
Répondit Hilaire. C'est à lui que je dois l'admirable situation dans laquelle vous me voyez aujourd'hui.
Comment cela ? Fit monsieur Florent ahuri.
Ben, c'est bien simple. Chargé en effet par le club de m'espionner, comme vous dites, il revenait le soir même du coup d'État à l'Arsenal. Et là, faisait un rapport si enthousiaste de la façon dont je m'étais comporté dans cette journée difficile, arrêtant, faisant prisonnier de ma main la Vaubourg, la belle Sonia et leurs complices, bref, me comportant si bien en véritable ami du peuple, que le club ne trouva rien de mieux pour me récompenser que de me faire nommer commissaire de la section et de m'offrir un sabre d'honneur. En ce qui le concernait, M. Barquimel avait su également présenter les événements avec tant de faveur qu'il parut à tous, puisqu'il avait partagé, paraît-il, mes dangers et su prendre lui aussi ses responsabilités. Qu'il parut à tous, dis-je, avoir mérité les félicitations du comité, lequel devait, quelques jours plus tard, le faire nommer juge au tribunal révolutionnaire.
Eh bien, elle est raide, s'exclama monsieur Florent qui faillit s'étrangler.
Oui, elle est raide, car il ne demandait qu'à vous vendre. Mais il a vu le parti qu'il pourrait tirer de votre amitié, et c'est ce qui, soudain, l'a fait si généreux. Et le voilà au fait des honneurs. Tandis que moi, qui n'ai rien calculé du tout en refusant de travailler contre vous, dans l'ombre, je suis perdu.
Non,
déclara péremptoirement M. Hilaire. « Vous n'êtes pas tout à fait perdu. »«
Merci, M. Hilaire. Ma vie est entre vos mains. Il faut que vous me cachiez jusqu'à ce que le fâcheux malentendu qui me fait poursuivre par Coudry se soit éclairci,
car je n'ai jamais écrit de libelle antirévolutionnaire, entendez-vous bien ?
Savez-vous où je vais vous cacher ?
Chez vous ?
Jamais de la vie, répliqua M. Hilaire avec une forte grimace. Chez moi, on va, on vient, 100 personnes passent chez moi tous les jours.
Et où donc, Monsieur Hilaire ?
Chez Monsieur Barquemel.
Monsieur Florent crut avoir mal entendu, mais Monsieur Hilaire lui expliqua que l'affaire était tout à fait sérieuse, et elle finit par lui plaire infiniment.
Ah bien, conclut-il, ce sera parfait. Elle est bien bonne, et il l'a bien méritée. Non, personne n'ira me chercher chez un juge au tribunal révolutionnaire. Et je connais assez son appartement pour savoir où je me dissimulerai sans qu'il puisse soupçonner ma présence.
D'autant plus qu'il est rarement chez lui, quelques heures la nuit. Il fait lui-même son ménage le matin et le voilà parti pour le palais de justice.
Alors vous avez la clé de chez lui ? Demanda M. Florent.
Il me l'a donnée pour que j'y fasse porter un panier d'eau minérale. Je ferai la commission moi-même, en y joignant quelques conserves à votre intention. C'est vous qui m'ouvrirez, car vous, vous allez filer tout de suite avec la clé. Je vais partir avant vous, et vous ne sortirez d'ici que lorsque j'aurai sifflé 2 coups. La maison de M. Barquemel est à 10 pas. Je parlerai au concierge pendant que vous grimperez.
« Dans quel temps vivons-nous ? » soupira l'infortuné Florent.
« Mais vous êtes pour moi le bon Dieu en personne. »
« Peut-on vous demander des nouvelles de Madame Hilaire ?»«
Je crois, » répondit M. Hilaire, en se disposant à partir et en faisant glisser son ceinturon sous son écharpe. « Je crois que je n'aurai plus jamais l'occasion d'avoir des mouvements de vivacité avec Madame Hilaire. »«
Mon Dieu !» gémit M. Florent. « Madame Hilaire serait-elle morte ?»
Mais M. Hilaire ne prit point le temps de lui répondre. Il avait jugé le moment opportun de se glisser dans la rue et de commencer d'exécuter le programme qui devait rendre la sécurité à M. Florent en le conduisant chez M. Barquemel. Ainsi fut fait, et vers les 2 heures du matin, M. Florent, qui était caché dans le coin le plus reculé de la garde-robe de M. Barquemel, entendit rentrer celui-ci. M. Barquemel n'eut pas plutôt refermé sa porte que M. Florent, qui le regardait aller et venir par un petit trou pratiqué par lui dans la cloison, le vit poser d'un geste là son bougeoir sur sa table de nuit. Après quoi, le magistrat croula dans son fauteuil Voltaire avec un profond gémissement.
Ah, ce n'était plus le beau Barquemel de tout à l'heure, l'orateur du club, le juge redoutable.
Monsieur Barquemel n'avait pas assez de ressort pour plastronner devant son armoire à glace. Il se laissait aller dans sa triste intimité. Il redevenait coire et mesquin. Il retournait à son passé de timide commerçant. Tout à coup, Monsieur Barquemel sembla revenir à la vie. Il redressa un front irrité, donna un coup de poing sur son guéridon Louis-Philippe et glapit, féroce,
« Est-ce ma faute à moi, si on ne l'a pas condamné à mort, ce Daniel ? J'avais prévenu le juré. Je lui ai dit, vous verrez que si on ne lui donne pas cette tête-là, Flotard ne nous le pardonnera jamais. Mais il n'a pas voulu m'entendre, le jury. Il a renvoyé Daniel devant la justice militaire. »
Et il se mit à crier comme un sourd.
« Tous à l'échafaud ! Tous à l'échafaud !»
On devait l'entendre du haut en bas de la maison. Et les locataires, réveillés, grelottaient certainement d'effroi sous la couverture. M. Florent, lui, claquait des dents.
« Ah bien !» se disait-il alors. « Comme on se trompe ! C'est une bête féroce !»
Il vit M. Barquemel, qui semblait étouffé de rage et de convictions révolutionnaires, se diriger vers la fenêtre de sa chambre à coucher, l'ouvrir et crier à l'obscurité mystérieuse de la nuit «
Je n'ai jamais voulu acquitter personne. »
Et M. Florent, devant ce déchaînement, regrettait de plus en plus l'imagination qu'avait eue M. Hilaire de l'enfermer avec ce tigre altéré de sang. M. Barquemel se déshabillait sans avoir refermé sa fenêtre. Tout à son exaltation, il ne prenait pas garde à la brise un peu fraîche qui venait du dehors, cependant que ce léger courant d'air produisait un effet désastreux sur Monsieur Florent, qui suait de peur. Les yeux et le nez commençaient à le piquer. Après quelques instants de réflexion, Monsieur Barquimel refermait sa fenêtre et s'apprêtait à se mettre au lit, quand un extraordinaire éternuement, éclatant dans son dos, le fit sauter sur place et se retourner, affolé. Les cloisons légères semblaient encore palpiter de cet imprévu déplacement d'air. Et, l'œil hagard, M. Barquimel considérait toutes choses autour de lui comme si elles étaient prêtes à s'effondrer et à l'ensevelir sous leurs décombres. Enfin, maîtrisant autant que faire se pouvait une épouvante qui faisait trembler sur sa tête la mèche de son bonnet, il râla. « Qui que tu sois qui est caché là, tu peux te montrer si tu es un ami du peuple. » Mais personne ne se montrait, et un nouvel éternuement partant de sa garde-robe, M. Barquimel sauta avec désespoir sur un revolver qu'il avait déposé dans le tiroir de sa table de nuit et qu'il mania si imprudemment qu'un coup partit avec un bruit de tonnerre. Aussitôt, quelque chose roula sur le carreau, hors de la garde-robe. C'était le corps pantelant de M. Florent que M. Barquimel reconnut avec horreur. D'abord, il crut qu'il l'avait tué, et il recula jusqu'au milieu de la chambre, puis jusqu'à la porte, quand il vit que le corps prenait peu à peu la position d'un homme en prière, les genoux sur le carreau et les mains jointes. Non, M. Florent n'était pas mort, et il réclamait le secours de M. Barquimel. M. Barquimel ouvrit alors la porte qui donnait sur le palier et écouta longuement le mystère de la nuit au-dessus de la cage de l'escalier. Plus le juge au tribunal faisait de bruit chez lui, plus la maison semblait dormir. À peine osait-elle soupirer. Et un coup de revolver dans la nuit n'était point, à cette époque, pour faire sortir les curieux. Au contraire. M. Barquimel rentra chez lui en redressant sa courte taille et en se frappant la poitrine. « Monsieur, dit-il à M. Florent, je ne vous connais pas. Par quel miracle êtes-vous chez moi? Je veux l'ignorer. Et félicitez-vous de mon manque de curiosité en un pareil moment, car si j'étais curieux, monsieur, je pourrais peut-être apprendre que vous vous appelez Florent et que vous êtes sous le coup des justes lois. Allez-vous-en, monsieur, c'est tout ce que je puis faire pour vous. » Et d'un geste de commandement, plein d'orgueil et de dignité, M. Barquimel montrait la porte à M. Florent. « C'est bien, » dit M. Florent, vaincu, anéanti, se traînant, et gagnant sans insister la porte, car il croyait bien qu'il n'arriverait point à attendrir ce roc révolutionnaire. « C'est Hilaire, plus généreux que toi, qui m'avait donné ta clé. C'est bien, je m'en vais, puisque tu ne veux pas te souvenir que nous nous sommes aimés. « Et où vas-tu ? » demanda brusquement à voix basse M. Barquimel en retenant M. Florent et en refermant la porte. « Est-ce que je sais, moi ? Je vais à l'échafaud. »«
Oui, tous à l'échafaud !»
beugla M. Barquimel. Cependant, il faisait asseoir M. Florent sur le fauteuil Voltaire, et les larmes aux yeux lui demanda à voix basse
« As-tu faim, Florent ? As-tu soif ? Mon Dieu, quelle pauvre figure tu as ! Tu me fais de la peine ! Tu vois où t'ont mené tes opinions ! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant ? »
« Garde-moi ! » gémit Florent en embrassant son vieux Barquimel. Alors ils se mirent à sangloter tous les deux dans les bras l'un de l'autre.
« Bien sûr que je te garde !» finit par dire Barquimel. « Mais ça n'est pas drôle, tu sais. Si jamais on te découvre chez moi, nous sommes...
Dans quel temps vivons-nous ?
Mais nous vivons dans un temps magnifique !»
s'écria avec éclat M. Barquimel. « Et nous n'avons encore vu que des roses. C'est maintenant que la terreur va vraiment commencer. La terreur sans laquelle la vertu est impuissante. »
« Mais tais-toi donc !» souffla M. Florent. « On va savoir que tu t'entretiens avec quelqu'un. » Pas le moins du monde. Ils sont habitués à mes soliloques. Je les épouvante avec mes soliloques. De temps en temps, je me réveille la nuit pour les épouvanter. Ah, mon petit, quel travail! Mais il faut vivre, n'est-ce pas? Ils m'ont fait juge au tribunal révolutionnaire. Si je n'épouvantais pas mon quartier, c'est mon quartier qui m'épouvanterait. Et puis, je crains les espions. Ils en mettent partout. On doit m'observer dans l'ombre. Alors, je ne suis jamais aussi féroce que lorsque je suis seule. Comme cela, ils sont renseignés sur ma vraie nature. Je ferai ce que tu voudras, mon brave Barquimel. Ah, tu n'as pas changé. Ce sont les temps qui ont changé.
Chut! Écoute, il m'a semblé entendre du bruit.
Et aussitôt, d'une voix éclatante, moi je leur répondrai à ces trembleurs de l'assemblée. Messieurs, une petite saignée ne peut être guérie que par une grande.
Oh, tais-toi, c'est affreux. Quand tu parles comme ça, tu me fais mal.
Eh bien, et moi donc? Je m'effraie moi-même.
Mais c'est épouvantable. Silence. Du bruit dans la rue. Les crosses, les sectionnaires. Grand Dieu, je parie qu'ils viennent te chercher.
Monsieur Barquimel souffla immédiatement sa bougie et tous deux écoutèrent. Des voix montaient, des appels, des commandements militaires mêlés à un remuement d'armes sonores sur les pavés et à des coups de poing frappés aux portes.
« Au nom de la loi, ouvrez !»«
Non, pas à cette porte-là !»
protesta dans la rue une voix de Rogom.
« Mais ici, je vous dis qu'il doit être ici !»«
Misère de misère !»
agonisa M. Florent.
« C'est la voix du père Talon !»
« Plus haut, chez le juge, chez son ami Barquimel. Je vous dis qu'il est chez son ami Barquimel. »
Barquimel jeta Florent dans la garde-robe où se trouvait une sorte de double fond, puis il courut à son lit dont il défit la couverture. Enfin, il ouvrit sa porte en criant
« Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Allez-y, allez-y ! Le bonhomme ne dormait pas tout à l'heure, il y avait de la lumière chez lui. C'est sûrement lui qui cache le suspect. »
« Messieurs les sectionnaires, » commença Barquimel, « je suis juge au tribunal révolutionnaire. J'apprends par vos cris que vous cherchez un nommé Florent, que j'ai connu autrefois. »«
C'était votre ami, » glapit le père Talon.
« Possible, mais il ne l'est plus. »«
On l'a vu entrer dans votre maison. »«
Ce que je puis vous affirmer, c'est qu'il n'est point chez moi. »«
Nous allons bien voir. »
Les officiers municipaux procédèrent alors, en ordre, à la visite domiciliaire. Et ils ne trouvèrent rien, mais une sorte de harpie qui accompagnait les sectionnaires s'écria
« Je crois que je le tiens, il y a un double fond !»
Or, ce miracle survint qu'on ne trouva point Florent dans la garde-robe, parce qu'il n'y était plus.
Par où était-il passé? Où s'était-il glissé?
Soudain, a raconté depuis M. Barquimel qui s'était recouché, soudain je devins plus pâle encore si possible, et je m'allongeai en poussant un soupir de détresse. Je déclarai aussitôt que j'étais très fatigué et que cette perquisition me tuait. Or, je venais de sentir remuer près de moi quelqu'un qui ne pouvait être que Florent. Florent s'était glissé entre mes deux matelas. Comment Florent pouvait-il respirer? Certainement, pour peu que la visite se prolongeât, j'allais le retrouver étouffé. Et je fus tout de suite tracassé par l'abominable idée que je ne saurais que faire de son cadavre. Enfin, ils déclarèrent qu'ils n'avaient plus qu'à chercher dans mon lit. Du coup, j'ai cru que j'allais mourir. Ils se contentèrent heureusement de toucher le haut et le pied de mon lit et de regarder ensuite dessous. Puis ils défirent les coussins des sofas dans ma chambre, la salle et le salon. Je croyais qu'ils ne s'en iraient jamais. Enfin, ils eurent le toupet de m'engager à prendre un peu de repos et me souhaitèrent une bonne nuit. Ils restèrent quelque temps encore dans la maison et je continuai à ne pas bouger. Le terrible était que Florent non plus ne bougeait plus. Était-il mort? Étais-je assis sur le cadavre de mon ami? Pouvais-je encore le sauver? Horrible perplexité! J'entendis enfin la porte de la rue se refermer. et aussitôt la détestable patrouille s'éloignait dans la nuit. Alors je sautai de mon lit et allai pousser les verrous. Puis d'un bond, je revins au lit et en tirai Florent avec beaucoup de difficulté, parce que depuis qu'il était là, il avait essayé de garder sa respiration autant que possible et qu'il était suffoqué, sans voix et aussi trempé de sueur que s'il avait été dans son bain. Je l'étendis près de ma fenêtre, que j'ouvris, et lui fis prendre un grand verre d'eau-de-vie. À la fin, il revint à lui, m'exprima toute sa gratitude et me dit combien il avait été effrayé et surpris de mon courage en présence de ces hommes, surtout quand ils avaient regardé dans le lit. « Certes, lui dis-je, il y en a peu qui auraient fait ce que j'ai fait pour toi. » Il en convint, et je lui fis comprendre qu'une seconde aventure comme celle-là serait de trop pour mes forces, et qu'il ne pourrait mieux me récompenser de l'avoir eue près de moi en un pareil moment qu'en me quittant le plus tôt possible. Son visage, en m'écoutant, marquait une assez grande mélancolie. Toutefois, il m'entendit, n'insista pas, m'embrassa et partit. Je refermai ma porte sur lui tout doucement et j'eus le cœur serré en l'entendant descendre avec précaution l'escalier. Mais quoi ? J'étais sûre, quoi qu'il arrivât, et même s'il était pris dans la maison, de pouvoir prétendre désormais qu'il n'était pas caché chez moi. Et en vérité, j'en avais assez fait pour un homme qui avait passé son existence à n'être de mon avis sur rien et à me disputer à propos de tout. Chapitre 24. Du plus grand danger que courent les révolutions. Ce n'avait pas été une tâche facile pour ce pauvre monsieur Hilaire, obéissant aux ordres de Chéri-Bibi, que celle de décider les hôtes de l'hôtel du Touchet à le suivre. Quand Cécilie avait appris le désastre de son fils et quand Lydie connut que son fiancé avait été fait prisonnier, elles déclarèrent toutes deux qu'elles ne tenaient plus qu'à une chose qui était d'aller partager son sort dans son cachot. Heureusement, Marie-Thérèse fut raisonnable pour trois. Soutenue par Jacqueline, elle avait vaincu les dernières hésitations de Cécilie et de Lydie, et nos quatre fugitives, ayant abandonné l'hôtel, étaient restées jusqu'à la fin du jour, dissimulées au fond d'une singulière échoppe, dont le patron, tout barbouillé de noir, avait métier de vendre du bois et du charbon. La nuit tombée, M. Hilaire avait conduit son monde sans encombre, non loin de là, dans une petite ruelle qui passait derrière ses magasins et où il avait une réserve dans un sous-sol qui communiquait avec ses caves. On descendait directement de la ruelle dans cette réserve, par une porte basse servant ordinairement au passage des barriques. M. Hilaire eut vite fait d'encrocheter la serrure et d'y faire descendre les quatre malheureuses. Aidé de son bougnat, en lequel il semblait avoir une bien grande confiance, il les installa là, avec quelques provisions de bouche, au milieu de ses fûts, le plus confortablement qu'il put. Le bougnat avait prêté des paillasses et des draps, que l'on fut étonné de trouver tout blancs en dépit de la couleur de leur propriétaire. Enfin, M. Hilaire, après avoir fait sortir le bougnat, après avoir condamné la porte qui faisait communiquer la réserve et sa cave, et après avoir recommandé à ces dames de se barricader à l'intérieur et de n'ouvrir la porte de la rue à personne, sous aucun prétexte, referma cette porte et courut à son club pour avoir des nouvelles. Elles étaient bien mauvaises pour le commandant, mais elles étaient bonnes pour M. Hilaire, à qui on apporta la ceinture de commissaire de la section. De temps en temps, M. Barquimel, qui avait pris tant de part, comme nous le savons, à la nomination de M. Hilaire, lui disait « Vous ne vous déciderez donc pas à rentrer. Madame Hilaire doit être morte d'inquiétude. Songez que voilà deux nuits que vous découchez. » Mais M. Hilaire n'était point pressé de rentrer. Ça ne l'inquiétait guère que Madame Hilaire fût morte d'inquiétude. C'était bien au contraire l'idée qu'elle ne l'était point, morte d'inquiétude, qui le troublait davantage. Qu'est-ce qu'il allait prendre en rentrant ? Tout à coup, il se frappa le front. Chacun crut qu'il avait trouvé la solution de l'un de ces nombreux problèmes sociaux dont la discussion agitait si tumultueusement les réunions du club de l'Arsenal, et chacun fit groupe autour de lui. Et en vérité, il s'agissait bien de quelque chose comme cela. « Mes amis, » commença M. Hilaire sur le ton de la plus grave confidence, « pourriez-vous me dire quel est, à l'heure actuelle, le plus grand danger de la Révolution ?» Les amis de M. Hilaire se regardèrent en fronçant le sourcil, comme si cette pauvre Révolution était déjà à bout de souffle, et comme si l'on avait pris la précaution de les réunir tous là à une heure aussi avancée pour la sauver. Mais, comme en général il manquait d'imagination, ils secouèrent la tête avec un sombre désespoir. Alors M. Hilaire se décida à frapper un grand coup. « Le plus grand danger de la Révolution, c'est la femme !» Et il attendit pour juger de l'effet produit. Ces messieurs se regardèrent, bouche bée. Les uns qui étaient célibataires dirent « Peut-être bien !» Les autres qui étaient mariés ne dirent rien du tout pour ne pas se compromettre. Ils attendaient la suite. « Il est certain, » opina M. Barquimel, qui consentait difficilement à se taire. « Il est certain, par exemple, que les tricoteuses... »«
Citoyen Barquimel !» interrompit M. Hilaire.
« Ne dites point de mal des tricoteuses. Elles étaient laides, mais leur hideur même, en épouvantant les ennemis de la nation, ne faisait qu'ajouter à leur châtiment, et la Révolution ne s'en est jamais plainte. Je vise ici les femmes privées, l'immense armée de nos femmes, à nous, hommes mariés. Je parle des femmes de nos foyers, des mères de nos enfants, des ménagères au cœur bon et tendre qui nous rendent si doux le retour à la maison après les travaux du jour. Ce sont celles-là qui sont un danger, un perpétuel danger pour la Révolution. » Il s'arrêta encore et les vit tous médusés, comme on dit, et suspendus à ses lèvres. « En vérité, » continua-t-il avec une nouvelle énergie, combien voyons-nous de citoyens s'étonner des propositions de loi les plus anodines? Combien aussi en voyons-nous qui, partisans, la veille d'une action prompte et terrible, reviennent le lendemain avec des amendements destinés à faire perdre à la loi toute son efficacité et toute sa force? Pourquoi ces changements? Pourquoi ces tremblements? Pourquoi cette timidité qui peut perdre, je le répète, la République? Citoyens, cherchez la femme. C'est un être de bonté, mais aussi de faiblesse. Et cette faiblesse, oh misère, par un étrange phénomène dont il est absolument nécessaire de nous garder, cette faiblesse est plus puissante que notre force. Elle la ruine avec des larmes. Elle la détruit avec un sourire. Elle l'anéantit quelquefois aussi, il faut bien le dire, avec la menace. Mes amis, vous m'avez compris. Vous savez maintenant pourquoi le plus grand danger de la Révolution est la femme qui vit à notre côté, la vôtre, citoyen. Et je ne fais pas le malin, la mienne. Quand Madame Hilaire me dit « Je ne veux pas cela, tu n'auras pas le cœur de voter cela, tu ne feras pas cela », je suis presque désarmé. Eh bien, citoyen, il faut d'un coup nous délivrer de cette néfaste opposition domestique, plus terrible que celle que nous avons à combattre tous les jours au sein des assemblées populaires. Dès demain, je demanderai au club de l'Arsenal de voter la proposition de loi suivante qui sera portée au bureau de la représentation nationale. La femme d'un citoyen révolutionnaire qui n'obéit point à son mari encourt la peine de mort. » M. Hilaire se tut, et ce fut un triomphe. La salle faillit crouler sous les applaudissements des révolutionnaires mariés. Et quant aux autres, ils approuvèrent aussi, mais avec un sourire. « Je veux vous montrer l'exemple dès ce soir, » dit M. Hilaire en s'emparant d'un carton de calendrier périmé. Et il demanda du papier blanc, de la colle et de quoi écrire. 5 minutes plus tard, il avait un magnifique écriteau sur lequel, en lettres majuscules, était tracée cette phrase flamboyante. La femme d'un citoyen révolutionnaire qui n'obéit point à son mari encourt la peine de mort. Il mit cet écriteau sous son bras, envoya chercher au poste voisin deux sectionnaires qui arrivèrent, baïonnette au canon, et auxquels il ordonna de l'accompagner. Après quoi, ayant serré la main de ses amis avec une émotion qui fut partagée, car tous connaissaient Virginie, il prit, flanqué de ses deux gardes, la direction de sa demeure, où l'attendait impatiemment, croyait-il, Madame Hidert. Cependant, elle se refusa cette nuit-là à lui ouvrir la porte. En vain tambourina-t-il avec force sur la devanture de tôle. Madame Hidert, retranchée à l'intérieur, déclara du haut de la fenêtre entr'ouverte de sa chambre qu'elle ne descendait point pour se geler à une heure pareille, et que Monsieur Hidert pouvait s'en retourner. La fenêtre se referma avec fracas, et Monsieur Hidert s'en fut passé le reste de la nuit dans les cabarets. Mais il était furieux, et à la façon dont, le lendemain matin, vers les 8 heures, il s'avança vers la porte grande ouverte, cette fois de la grande épicerie moderne, à la manière dont il portait son écriteau sous le bras et faisait avancer ses deux gardes civiques, il était facile de voir que ça allait gazer. Quand il entra, après avoir placé ses guerriers de chaque côté de la porte, Madame Hidert était à la caisse. Elle ne leva même pas le nez, selon son habitude, quand elle était à l'état de fureur concentrée. Elle ne vit ni ne voulut voir Monsieur Hidert, qui avait étalé sur son gilet sa large ceinture à glands d'or et qui était l'objet de l'admiration terrifiée de tous ses garçons. Monsieur Hidert s'avança vers la caisse tout de suite, et avec le plus de courage qu'il put, ce qui, entre nous, n'était guère. Mais enfin, il réussit à attacher, malgré des mains tremblantes, son écriteau sur le bois même de la caisse. Madame Hidert ne pouvait pas encore le lire, mais les garçons en épelèrent les termes et se replongèrent dans le maniement de leur sac de pruneaux en frissonnant. Qu'allait-il se passer, grand Dieu? Qu'allait-il se passer? Monsieur Hidert toussa, affermit sa voix et jeta cette phrase aux échos de la grande épicerie moderne. « Est-ce que l'on a envoyé des abricots de Californie ?» Les échos ne répondirent point. Tous les yeux étaient tournés vers Madame Hidert, qui continuait d'additionner. « Est-ce que je parle français ou turc ?» interrogea encore Monsieur Hidert, qui sentait sa moutarde de Dijon lui monter au nez. Et il répéta « Est-ce que l'on nous a envoyé des abricots de Californie ?» Puis, n'osant regarder sa femme, il fixa un regard si menaçant sur le petit commis que l'enfant, en garant son petit derrière, prit la force de répondre « Je sais pas, moi, monsieur !»« Personne ne le sait ici ?» gronda Monsieur Hidert, cette fois d'une voix terrible. Alors le premier commis répondit « Oui, nous en avons reçu 2 caisses de 20 kilos, monsieur » « A-t-il envoyé aussi le macaroni ?» « Et les quarts d'épluchure de truffes ?» Monsieur Hidert tournait le dos à la caisse. Il eut la sensation de la tempête qui s'élevait derrière lui. Le souffle de l'ouragan lui apporta ces mots. « Épluchure toi-même ! Qu'est-ce que ça peut bien te faire ce qui se passe ici, quand on a une conduite pareille ?» Ce fut au tour de Monsieur Hidert de ne pas répondre. Il alla simplement chercher dans un tiroir de la caisse la clé de la réserve, et s'avança vers une trappe qui s'ouvrait dans le parquet et par laquelle on descendait à la cave. « Qu'est-ce que tu vas faire à la réserve? Tu n'as pas besoin d'aller à la réserve. Et si tu veux y descendre, tu me feras le plaisir d'aller mettre ton tablier et ta casquette et de m'enlever cette espèce de torchon rouge que tu portes sur le ventre. » « Madame Hidert, » déclara Monsieur Hidert sur un ton qu'il n'avait jamais encore pris en public devant son épouse, « je vous prie de mesurer vos paroles. » Elles sont plus graves que vous ne le croyez. Ce torchon rouge, comme vous dites, ne me quittera pas. Il est l'insigne de ma nouvelle dignité. Je suis nommé commissaire de la section de l'arsenal. Beau commissaire, ma foi. Regardez-moi cette tête de commissaire. et chargé, continua M. Hilaire imperturbable, de faire respecter les décrets de l'Assemblée. Lisez, madame. En prononçant ces mots, il montrait de l'index de la main droite l'écriteau suspendu à la caisse. Puis il se retourna et continua son chemin vers la trappe. C'en était trop pour Virginie. Elle sauta plutôt qu'elle ne descendit de son trône-comptoir et elle roula jusqu'à la trappe sur le bord de laquelle elle s'arrêta prudemment. Alors, elle se dressa devant M. Hilaire. « Je vous défends de descendre à la cape dans cet attirail !» s'écria-t-elle, mugissante. « Cet attirail ?» répondit M. Hilaire. « Cet attirail m'a été imposé par la nation, et désormais ne me quittera plus. « Tenez, vous me faites de la peine. Allez vous coucher. Vous devez en avoir besoin après toutes vos orgies. » Et elle se disposa à faire retomber la porte de la trappe, fermant ainsi le chemin des caves à M. Hilaire. Mais voilà que celui-ci, outré et décidé aux pires extrémités, la prit par un bras et l'amena devant l'écriteau. La femme d'un citoyen révolutionnaire qui n'obéit pas à son mari encourt la peine de mort. Or, au lieu de s'effondrer, cette forte dame eut le toupet de s'esclaffer et voulut porter une main sacrilège sur l'écriteau de M. Hilaire. L'épicier commissaire n'hésita pas plus longtemps à appeler sa garde à son secours. Les deux gardes civiques se précipitèrent et, sur l'ordre de M. Hilaire, firent prisonnière Mme Hilaire. Quand Virginie se vit entre deux baïonnettes, secouée par des lascars qui n'avaient pas l'air de plaisanter, elle changea plusieurs fois de couleur. Et cela, juste dans le moment que la rue retentissait d'un brouhaha farouche et que tout un cortège de mauvais garçons déchargeait en l'air leurs revolvers et, brandissant des sabres, acclamait la première victoire de la Révolution et menaçait d'une mort imminente tous les citoyens qui ne hisseraient point à leur fenêtre le drapeau rouge. M. Hilaire montra son écharpe et fut acclamé. C'était la Révolution qui passait. Jamais Mme Hilaire ne l'avait vue de si près. Elle jugea que c'était fini de rire et pensa que l'écriteau pouvait bien être point de fantaisie dans un temps où les hommes pouvaient tout se permettre. Alors elle pleura, s'avouant ainsi vaincue. « Remettez madame dans sa caisse, » ordonna M. Hilaire à ses soldats. Et ils repoussèrent la bonne dame jusque dans son fauteuil. « Vous avez, jusqu'à nouvel ordre, la garde de madame, » émit l'épicier commissaire. « Vous êtes responsable de sa conduite. Si elle cesse de faire ses additions et si elle s'échappe de sa caisse, vous aurez à vous expliquer devant moi et le comité du club, qui ne badine pas avec la discipline. » « Assez de pleurer, madame, et inscrivez. 5 kilos de sucre à... » elle écrivait en sanglotant, en se mouchant, en soupirant, en s'essuyant les yeux, la bouche, son double menton, gonflé de désespoir. Et de temps en temps, quand M. Hilaire avait le dos tourné, elle examinait ce qu'il faisait, le trouvait beau dans sa démarche, dans ses gestes décidés comme elle ne lui en avait encore jamais vu, beau avec sa ceinture de commissaire qui le faisait saluer bien bas par les clients. Elle était domptée. Où était-il passé? Qu'était-il allé faire dans la salle à manger? Un moment, elle l'entendit remuer dans la cuisine, et puis il revint avec une espèce de grande bannette sur laquelle il avait jeté un tablier, et il descendit dans la cave. Elle se demandait ce qu'il y allait faire et pourquoi il avait pris la clé de la réserve où l'on ne pénétrait que tous les samedis quand il renouvelait les stocks de marchandises ou les liquides. Elle compta qu'il y resta près d'une demi-heure. Et il lui parut qu'il en revenait avec une étrange figure très attristée. Quel était ce nouveau mystère? Après avoir donné des instructions au premier commis, il quitta l'épicerie et ne revint qu'une heure plus tard, accompagné d'un bougnat qui portait un sac sur son épaule et qui descendit avec lui à la cave. Le plus joli est que M. Hilaire remonta tout seul, laissant le bougnat en bas. « C'est le nouveau charbonnier d'à côté, fit Monsieur Hilaire en passant près de la caisse. « Je lui fais ranger les sacs et ramasser la poussière de charbon. »
« Mais nous n'avons plus besoin de charbon avant l'hiver, mon ami !»
osa soupirer Madame Hilaire. « Une femme qui n'y voit pas plus loin que le bout de son nez peut s'imaginer cela, en effet, » répliqua Monsieur Hilaire. « Mais un homme qui prévoit d'ici peu la hausse formidable du combustible sait prendre ses précautions. »«
Bien, mon ami, bien, mon ami !»«
Ah, je vais te dire, j'ai invité le Bougnat à déjeuner. » Ça se fait entre voisins.
Oh, mon ami!
Elle suffoqua. Il avait invité à déjeuner ce Bougnat, mais il était bien réellement fou. Et elle se reprit à pleurer.
Chiale pas! Commanda-t-il. C'est pas le moment. J'ai encore 4 autres invités.
Elle se moucha.
Tu aurais dû me dire ça plus tôt. J'aurais soigné le menu et j'aurais fait un peu de toilette.
« À la bonne heure, j'aime à te voir raisonnable comme ça. Mais ne te tracasse pas. Nos invités sont des gens tout simples qui se contenteront de ce qu'il y aura et pour lesquels il n'y a pas besoin de se mettre sur son 31. »
Elle pensa, « S'ils sont tous comme le charbonnier. »
Mais elle n'imaginait pas qu'elle verrait arriver vers les midis 2 forts de la halle couverts de farine, un horrible petit voyou chaussé d'espadrilles et un calamiteux petit vieillard, tout courbé et tout ratatiné, que Monsieur Hilaire lui présenta dans ces termes « Papa Cacahuète ». Virginie comprit dans un éclair. Monsieur Hilaire prenait des précautions avec le peuple. Quel homme ! Quel génie !
Elle dit « Hilaire, je te demande pardon. » Tu peux dire à ces 2 messieurs de s'éloigner qu'avec leurs baïonnettes, je ferai tout ce que tu voudras. »
Alors il renvoya les 2 sectionnaires au poste, après les avoir régalés sur le comptoir. Et il embrassa Virginie.
« C'est fini ? » lui demanda-t-il.
« Oui, Hilaire. Alors va rejoindre nos invités dans la salle à manger. Tu n'as à t'occuper de rien que d'être aimable. Tu verras comme tout va bien marcher. » J'ai renvoyé la bonne.
Tu as renvoyé la bonne?
Oui, elle me gênait avec ses réflexions. En temps de révolution, on n'a pas besoin de bonne. Ça comprend mal ce qui se dit et on n'est jamais trahi que par ces êtres-là. Tu comprends?
Tu as raison, Hilaire. Tu as encore raison. D'autant plus que j'avais une bonne envie de lui donner ces 8 jours. C'est incroyable ce que cette fille usait de brillants belges. Mais qui est-ce qui servira le déjeuner?
« Toi, donc ? » ?»«
Et le déjeuner des commis ? » ?»«
Je les envoie déjeuner dehors. 5 francs à chacun, ça vaut mieux. »«
Mais tu nous ruines ! » !»«
Ils sont contents et ils n'écoutent pas aux portes. »«
Bien, bien !»
obtempéra Virginie, rêveuse. Le déjeuner se passa mieux qu'elle n'aurait cru. Ces pauvres gens se conduisirent proprement et ne tenaient point de propos déplacés. Comme le Bougnat s'était lavé les mains, elle jugea qu'il avait les extrémités bien fines pour un travailleur de son espèce. Les autres l'appelaient Monsieur Frédéric et paraissaient le connaître depuis longtemps. Monsieur Frédéric appelait les 2 forts de la halle Polydore et Jean-Jean, couramment. Quant au clerc de notaire en savate, Monsieur Mazeppa, et aux marchands de cacahuètes, ils avaient l'air de faire bande à part et ne se mêlait pas à la conversation, qui roulait sur les événements du jour et sur la prise du subdamoun dont il disait pique-pendre. Madame Hilaire se mettait en 4 pour contenter tout son monde. Voyant que papa Cacahuète était fort triste et mangeait peu, elle lui adressa de douces paroles.
« Ça va, monsieur, en ce moment, le commerce des cacahuètes ?»«
Mon Dieu, madame !» répondit le vieillard avec une grande mélancolie. « Je dois vous avouer que le commerce traverse une crise en ce moment. » Puis il se tut, et Madame Hilaire retomba dans ses réflexions. Quel drôle de gens tout de même! Quel singulier convive! Enfin, il était à présumer qu'elle ne les aurait pas tous les jours à sa table. Comme son épouse en était là de ses pensées et de son ahurissement, Monsieur Hilaire lui confia qu'il avait décidé de donner l'hospitalité aux deux forts de la halle, messieurs Jean-Jean et Polydore, lesquels avaient eu le malheur d'être mis à la porte de leur domicile le matin même par leur propriétaire, un bourgeois avare et imprudent qui avait la prétention qu'on lui payât son loyer en ces temps de trouble. Madame Hiller ne comprit rien tout d'abord à ce qu'on lui disait, tant l'affaire lui apparaissait monstrueuse. Enfin, quand il fut bien entendu qu'on allait loger ces deux brutes, elle se leva. Non, non, cette fois elle en avait assez vu et assez entendu. « Où vas-tu, ma chérie ? » demanda Monsieur Hiller. Elle s'en fut à la cuisine. Monsieur Hiller la rejoignit. « Quoi donc ? » fit-il. « Il y a quelque chose de cassé ?» Elle eut une expiration de soufflet de forge et finit par dire « Tu ne voudras pourtant pas leur donner notre lit ?»«
Non, » répondit Monsieur Hiller avec tranquillité. « Je les mettrai dans la cave. Là, ils ne nous gêneront pas. »«
Dans la cave ? Dans la cave où il y a le vin, le jambon, le cervelas, les provisions de comestibles ? Dans la cave ?»
Madame Hiller, pour ne pas tomber, se raccrocha au garde-manger qui céda, et Monsieur Hiller dut retenir le tout, ce qui fut un moment l'un des plus grands efforts de sa vie. Enfin Virginie retrouva l'équilibre.
« Je ne comprends plus rien à ce que tu me dis ni à ce que tu fais, et je crains bien de devenir folle. C'est peut-être déjà fait. »
Alors, pitoyable, Monsieur Hiller embrassa Madame Hiller, qui eut envie de le mordre, mais qui, après ce qui s'était passé, trouva plus prudent de recevoir la caresse avec un sourire.
« N'essaie pas de comprendre, ma Virginie, et tu seras heureuse. »
Sur quoi, il la laissa et alla s'enfermer dans la salle à manger avec ces gens qui étaient de conditions si bizarres et que Madame Hiller n'avait jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Madame Hiller, les jours suivants, en vit bien d'autres. La salle à manger était devenue comme la salle d'une sorte de conseil de guerre où se rencontraient à toute heure ce fantastique marchand de cacahuètes, ce petit voyou de Mazepa, le Bougna et ces deux forbans qui ne quittaient plus guère la maison. C'étaient ces deux-là, Polydore et Jean-Jean, qui tracassaient le plus Madame Hiller. Les savoir la nuit chez elle, en train de faire ce qu'ils voulaient, cela la dépassait, et elle s'en mangeait les sangs. Le plus beau était que Monsieur Hiller continuait de leur descendre lui-même ce qu'il appelait leur encas pour la nuit. Et quel encas ! Du poulet, des primeurs, des fruits, enfin tout ce qu'il y avait de mieux. Elle croyait rêver. Enfin, elle avait reçu l'ordre de ne plus descendre à la cave.
« Tu comprends, » avait dit Monsieur Hiller, « maintenant qu'il y a deux hommes qui l'habitent, ta place n'est pas là. »